Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1 euro par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Alexandra Roulet, professeur à l'INSEA, membre du Conseil d'analyse économique et prix du meilleur jeune économiste 2024. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Et Robin Rivaton, directeur général de Stonal, fondateur de Real Estate et membre du conseil scientifique de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Il a publié Sourillons, nous sommes filmés aux éditions Alpha. Il y a Lionel qui demande si on a des nouvelles de Bruno Le Maire. Je n'ai pas de nouvelles de Bruno Le Maire. D'ailleurs, je me suis posé une question. Gérald Darmanin nous dit qu'il va aller siéger au Parlement dans quelques jours, mais normalement, il est ministre de l'Intérieur. Et donc, en fait, il va rester ministre, c'est son suppléant qui va...
Non, il ne peut pas, tant que c'est le gouvernement... Ouais. Ce n'est pas le gouvernement des affaires courantes, donc il faut que la démission du gouvernement soit acceptée, voilà, pour qu'il puisse aller siéger...
Alors, ça fait quand même maintenant deux jours qu'on se dit comment on va... Qu'est-ce qu'on met comme ingrédient dans la sauce ? J'ai eu une proposition de Stéphane Carcillo, parce que là, il y a l'histoire du SMIC à 1600. Je rappelle toujours, c'est pour un temps plein à 35 heures, hein. J'ai eu ce débat avec Marine Tondelier qui me disait c'est la pauvreté du SMIC. Je disais c'est la pauvreté quand on est en temps partiel. Mais à plein temps, si on est seul dans une région où la vie est moins chère que dans les grandes villes, on n'est pas sous le seuil de pauvreté. Voilà, avec le SMIC auquel va s'ajouter la prime d'activité, il ne faut jamais l'oublier. Et donc, effectivement, Stéphane Carcillo, c'était dans l'entre-deux-tours, nous a démontré, il est président du groupe des experts sur le SMIC à la suite de Gilles Berset. Il a démontré que, plus 14% d'un coup, c'est juste un suicide. Et donc lui, il dit, il faut utiliser la prime d'activité. Il ne faut pas toucher au SMIC, surtout pas à plus 14%. Et il dit, avec la prime d'activité, on peut apporter une réponse aux attentes. Et ça peut être une manière, peut-être, d'agir en ayant entendu ce que les gens ont dit, sans faire n'importe quoi. Après, je vous laisse réagir. Et la deuxième chose, abroger la réforme des retraites. Bon, je reviens pas sur le fait que par décret, c'est pas possible. Ce sera retoqué par le Conseil d'État. Mais là, et c'était qui m'a proposé ça, je sais plus. Si, c'est Xavier Thimbault hier, je crois, qui disait ça.
Il disait,
on peut y réimaginer, remettre sur la table la réforme des retraites en disant que c'est plus finalement avec la borne d'âge qu'on agit, mais avec les annuités. Parce que si vous mettez la borne d'âge à 62, mais que vous tirez les annuités, vous avez des effets qui sont un peu cousins. Bon, je viens de vous donner deux pistes.
Ouais,
alors,
il n'y en a pas une qui fait gagner des euros. Hein.
Ah, mais si, on peut, mais avec un âge pivot. Enfin, on revient à un régime à points ou des choses comme ça, quoi.
Oui, je sais pas ce que je dis là, par exemple, Romain Rivaton, vous dites.
Non, mais elle est dans le sens, effectivement, du détricotage même pas de la politique de l'offre, de la gestion saine des comptes publics. Encore une fois, la corde de rappel va être extrêmement violente. Vous avez cité ce que disait S&P, mais on peut pas être un pays qui enchaîne 5% de déficit des comptes publics 4 années d'affilée. Ça n'existe pas. On peut essayer, mais ça va se tendre à un niveau très très fort. Et nos partenaires européens, la voix de la France suite aux élections européennes, a perdu énormément de sa force à Bruxelles. Et nos partenaires européens nous surveillent de manière extrêmement, extrêmement attentive sur ce qui va être les annonces qui vont être faites. Et je pense que le symbolique en politique publique ou en finance publique importe parfois autant que les mesures réelles. Et donc remettre sur le métier à tisser une réforme qui a été validée il y a 8 mois, c'est un acte extrêmement, extrêmement dangereux qui aujourd'hui peut aboutir à une tension sur la note souveraine, la dette souveraine de la France très rapidement.
Si on fait ça, on est dégradé.
Je rappelle souvent Liz Truss.
Pas de doute.
Liz Truss, ça, en septembre, ça a été extrêmement, extrêmement rapide. Alors vous avez dit, c'est pas l'euro.
2022.
C'est 2022, il y a deux ans. C'est pas l'euro. C'était une zone monétaire qui est un peu plus faible que la zone euro. Mais le GLIT britannique, en 24 heures.
Le titre de dette britannique.
L'OAT britannique, l'équivalent de l'OAT britannique, s'est tendu extrêmement rapidement à un point que beaucoup de gens ont eu très peur. sur le marché. Et aujourd'hui,
oui, la livre s'est cassée la gueule.
Peut arriver. On a eu des émissions. On
a eu démissionné.
Les dernières émissions françaises de dette, on a été 3/4 qui ont été faites au prix limite. Donc ça montre bien que il y a de la demande, mais cette demande, elle est pas non plus extensible à l'infini. Donc moi, j'invite quand même tous les gens qui sont raisonnables, et on a quand même des gens qui sont raisonnables en politique, à faire très très attention à ça, parce qu'une fois que c'est cassé, ça ne revient pas en arrière. Malheureusement, c'est comme l'élastique. Quoi.
C'est terrible parce que c'est un discours frappé de la raison, ce que vous faites, Robin Rivaton. Et j'entends ce que dit Alexandra. On ne peut pas non plus penser qu'il n'y a pas eu de législative.
Non, bien sûr.
Qu'il n'y a pas cet hémicycle de malades là, qui vont là sous les yeux où plus personne ne comprend rien. C'est totalement inédit. Réaction à ce que dit. Parce qu'il a raison, Robin. Hein.
Oui,
l'incident de crédit, c'est la pire chose pour une nation.
Ça, il faut absolument. Et de ce point de vue-là, même si on va évidemment pas revenir sur le Rassemblement National, il faut quand même aussi se réjouir du fait que le Rassemblement National ait été écarté du pouvoir, parce qu'avec son programme anti-européen, anti-écologie, etc., on aurait eu potentiellement aussi des mesures compliquées. Sur la situation actuelle, je pense qu'encore une fois, il va falloir être dans une recherche de compromis, d'équilibre. C'est ce que les Français nous demandent. Donc, par exemple, sur le SMIC. Il est évident qu'augmenter le SMIC à 1600 euros, c'est suicidaire pour de nombreuses TPE, PME et même établissements industriels. Cela étant, il faut aussi pas tomber dans des discours totalement idéologiques. C'est-à-dire que sur le SMIC, on entend des économistes qui disent « ça fait que détruire de l'emploi », des économistes qui disent « ça n'en détruit pas ». Alors, elle est où la vérité ? La vérité, c'est qu'il y a de l'hétérogénéité sectorielle, de l'hétérogénéité en fonction des entreprises. Il y a eu quand même maintenant beaucoup d'études qui montrent que certains grands groupes, par exemple un fast-food, vous augmentez le SMIC, il va augmenter ses prix. Et donc, il ne va pas détruire de l'emploi. C'est juste que les consommateurs vont payer plus cher le burger. Évidemment, dans d'autres petites entreprises, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Donc, ça, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit exactement ce qu'il fallait faire, mais il faut qu'on puisse se parler ensemble. Donc, il faut absolument qu'on sorte de clivage idéologique où les gens voient la réalité toute noire ou toute blanche. Elle est souvent plus nuancée, il y a souvent de l'hétérogénéité. Et donc, sur le SMIC, entre le SMIC actuel qui est presque à 1400 et 1600, il y a peut-être une augmentation de 50 euros du SMIC qui est possible. Je ne sais pas. Je dis pas. Si vous voulez, c'est pas que je la soutiens particulièrement. Je dis juste que il va falloir être dans cette recherche de compromis. Et alors sur la prime d'activité, la proposition de Stéphane Carcillo, donc je vois l'esprit, je comprends tout à fait. Le petit sujet de la prime d'activité, c'est que ça vient un peu socialiser les salaires. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on voit la limite de la logique. C'est-à-dire qu'il y a quand même une limite à faire en sorte que ça ne peut pas être l'État qui paye de plus en plus une partie de votre revenu.
Avec des gens qui ont un tiers de leur revenu qui
c'est
vient
ça qui,
de...
C'est ça qui me gêne. C'est pour ça que je me dis peut-être qu'en fait, la solution serait peut-être d'augmenter le SMIC de 50 euros pour répondre à cette demande, ou je dis 50 euros complètement au hasard, plutôt que d'aller côté prime d'activité, qui va en plus des conséquences sur les finances publiques, qui rejoint le point de Robin Rivaton à l'instant.
Et pourtant ce qu'il dit Robin, on ne peut pas se permettre d'oublier qu'on est déjà à 3 années de 5% de déficit. Quoi.
Alors, pour 4 l'année prochaine. Ouais,
hein, pour poursuivre, Mathieu...
Ouais, non, mais il y a le budget et le SMIC, donc ça fait beaucoup.
on a 19 minutes 50 secondes.
19 minutes, non, non.
Je vous donne pas 19 minutes.
Non, ok. Juste sur la question du SMIC, c'est vrai que c'est un gros marqueur en fait, cette hausse du SMIC.
Oui, bon, en plus c'est les salaires indexés, le SMIC.
Salaires indexés, mais ça pose plein de questions. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un des points d'entrée qu'a le gouvernement pour augmenter les salaires. Mais on voit bien que la limite de l'exercice, c'est effectivement le risque de destruction d'emplois. Alors nous, on a chiffré.
Ça faisait... 29 000 nets,
ouais,
net, sur un an.
Si ce n'est pas financé, parce qu'en fait, il y a des histoires d'exonération de cotisations, etc. Ça dépend aussi de la temporalité. Est-ce que c'est fait immédiatement ou sur 3 ans ? Ce qui n'est pas la même chose que si vous prenez l'inflation au compte, le réel n'est pas le même.
C'est clair.
Mais on sort d'une séquence où moi, je pense que le problème, c'est le tassement des salaires et plutôt le salaire médian. Et qu'en fait, la réponse du SMIC, elle va plutôt tasser les salaires, ceux qui sont entre 1004 et 1006.
Bien sûr.
Avec la prime d'activité, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que en net, une personne seule à 1400 euros, à 200 euros en gros de prime d'activité.
250, je crois même.
Ouais, donc on est un peu plus de 1006.
Voilà.
Si vous prenez le salaire médian, il est autour de 2100, je crois.
Un point,
quelque chose comme ça, et vous commencez à payer
moins,
des impôts. Ça veut dire qu'en fait, vous avez une échelle des salaires qui est extrêmement compressée. Et donc le risque, en fait, d'augmenter fortement le SMIC, c'est de compresser encore plus l'échelle des salaires. Donc ça veut dire qu'il faudrait une réponse très forte sur les autres salaires, et donc il n'y a qu'une diffusion sur toute la grille des salaires. Et donc c'est comment après les entreprises l'absorbent. une telle diffusion. Mais moi, je pense qu'il faudrait travailler sur la dynamique des salaires au-delà du SMIC. C'est-à-dire, le problème aujourd'hui, c'est cette compression. C'est que les gens qui se plaignent, c'est pas que des gens au SMIC. Même, je pense que c'est essentiellement des gens qui sont au-dessus du SMIC.
Un peu au-dessus. Mais c'est l'objet du rapport Bozio-Vasmer.
Exactement. Voilà. Et ça fait 10, 20 ans, 30 ans qu'ils bossent et qu'ils sont, ils gagnent 10, 20, 30% de plus que le SMIC seulement. Sauf que, effectivement, on une maison à rembourser, une charge de famille, etc., ou une expérience, une qualification, mais leur travail, finalement, est assez peu rémunérateur par rapport à quelqu'un qui est au SMIC. Donc moi, bien sûr, il ne faut pas baisser le SMIC, éventuellement, il faut trouver des compléments de prime d'activité. Mais le grand débat, il est de comment redynamiser les grilles de salaire. Quand vous êtes jeune, vous n'avez pas de diplôme, bah, commencez au SMIC, à 1400 euros, si vous avez une prime d'activité, ce n'est pas la catastrophe, hein, si vous êtes en province. Par contre, si vous avez 20 ans de plus de boîte et que vous êtes juste 20% au-dessus du SMIC et que vous avez des enfants, là, c'est la galère. Et vous n'avez pas de perspective de carrière. Donc, il y a toute cette réflexion à avoir. Et moi, je pense que c'est un point limite de réfléchir que sur le SMIC. Voilà. Et qu'on devrait réfléchir à l'ensemble de la grille salaire et bien sûr qu'il faudrait mettre
Pas oublier de dire qu'il y a réfléchir à tout ce qui ne se voit pas,
tout ce qui ne se voit pas.
L'espèce de pente incroyable des allègements de cotisations.
Et donc, et de ça veut dire qu'il y a la question de cette fiscalité, de la prime d'activité qui se complémente avec tout ça, des exonérations et des taux marginaux justement au niveau du SMIC, c'est-à-dire qu'on a quand même des trappes à bas salaires, quoi. Et puis un autre problème quand même qui est plus macro, c'est qu'on a perdu en productivité quand même. Et que aussi, si on veut augmenter les salaires significativement, il faut qu'on regagne en productivité. Donc, il ne faut pas aussi oublier ce petit problème macroéconomique qui n'est pas un petit problème.
Non, qui n'est pas. Bon. C'est le point négatif du si on fait le bilan de la politique de l'offre, c'est que ça s'est.
Mais par contre,
aussi,
politiquement, ce que j'ai dit, c'est invendable. Ah oui. C'est-à-dire que, effectivement, le SMIC est un marqueur très fort, mais qui veut dire qu'il faut revaloriser les salaires, mais cette revalorisation doit s'accompagner d'une revalorisation.
Vous vous rendez compte comme on est
dans une réflexion profonde.
On ne sait pas, en fait. On ne sait pas gérer ces problèmes d'effet de seuil avec la remontée de la pente des allègements de cotisations.
On peut quand même essayer. On est arrivé à un. Donc, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on a 17% de salariés au SMIC 17, en France.
17,3.
Oui, ce qui est vraiment énorme par rapport à d'autres pays. Donc, il y a le sujet de la progression au-delà du SMIC. Mais oui, on est allé jusqu'à zéro charge au niveau du SMIC. Donc, alors qu'après, tout d'un coup, en effet, on a ces gros effets de seuil. Et on pourrait peut-être. Qu'il faut envisager, puisqu'on a cette contrainte de finances publiques qui ne nous permet pas de redistribuer les allègements et d'augmenter les allègements, mais qui nous permet simplement de reprofiler la pente, peut-être qu'il faut augmenter un tout petit peu les cotisations au niveau du SMIC pour les baisser plus haut, pour essayer d'inciter les gens à faire progresser. Je ne dis pas que c'est nécessairement ce qu'il faut faire, je dis qu'il faut mettre toutes les options sur la table. Et ça me paraît peut-être plus intéressant de reprofiler juste au niveau du SMIC que d'aller supprimer les allègements qui sont plus hauts dans la distribution et qui bénéficient à l'industrie.
Alors, il y a ceux qui disent il faut aller prendre les allèges
de cotisation. Plus haut parce qu'il n'y a pas d'effet emploi.
Voilà. Il y a ceux qui disent pour financer tout ça, on va aller prendre les allèges de cotisation entre 2,5 et 3,5.
Oui, et bien moi, vous voyez, je suis plus réservée sur la question parce que je pense qu'en fait, si vous voulez.
Ça pénalise le pays à terme.
En fait, au niveau de 2,5, 3,5 SMIC, on touche de l'industrie, certaines main-d'œuvre qualifiée, etc. Là, l'idée, ça serait plutôt de redistribuer. Juste autour du SMIC, parce que c'est les mêmes entreprises, donc elles seraient pas forcément perdantes au global. Les entreprises qui ont des salariés au SMIC, elles ont des entreprises aussi juste au-dessus du SMIC. Donc si on leur, peut-être que pour ces secteurs-là, ça serait un peu neutre. C'est juste qu'au sein de leur main-d'œuvre, ça serait un peu plus chargé au niveau du SMIC et un peu moins au-dessus.
C'est bien de rappeler que dans certaines situations, ça fera monter les prix aussi. Vous voulez réagir à ce qu'on vient de dire? Parce que moi, j'aimerais
le débat, le serpent de mer de savoir où il faut faire des allègements de charges. Je rappelle juste que.
Si, on va y revenir.
Si à la fin, on fait des. Oui, parce qu'on a construit.
On a construit. Mais c'est à 70 milliards, on a vu ça pour le coup.
Non, mais si on va à 1600, on a plus de 20% des actifs au SMIC.
On a construit un truc qu'on a oublié de dire. Qui est extrêmement complexe. Il y a une usine à gaz absolue. Et après, on se dit, il est complexe de faire évoluer l'usine à gaz. Et après, ça aussi, c'est quand même un truc qui est une mentalité très française, de construire des dispositifs qui, sur le papier, sont d'une complexité absolue, vraiment. Il y a quand même peu de pays qui ont quelque chose d'aussi complexe en termes de je règle les salaires, je règle les cotisations, je donne de la prime d'activité pour, grosso modo, faire des petites cases et être sûr que les gens sont dans des bonnes cases. C'est quand même pour la gestion des ressources humaines au sein d'une entreprise, c'est extrêmement compliqué parce que vous passez du temps à vous dire si je décale telle personne, qu'est-ce qui se passe. Donc tout ça, c'est du temps perdu pour faire quand même du vrai business et travailler réellement sur. Dans l'entreprise. Je rappelle juste un point sur les allègements de charges et de cotisations sociales. Aujourd'hui, dans nos économies, on a des entreprises qui sont dites à la frontière de la productivité. Ces entreprises font des gains beaucoup plus conséquent que la moyenne des entreprises, et ce sont elles qui tirent les pays. On le voit aux États-Unis, vous le voyez en Europe quand vous regardez les entreprises qui sont récentes, qui ont été créées et qui sont plus dynamiques que les autres, ces entreprises qui tirent la productivité de tout le monde. Si on veut taper sur ces entreprises, elles sont mobiles, donc il n'y a aucun problème, allons-y. Un jour on se plaindra que la productivité du travail ou du capital est en chute libre dans ce pays, c'est simple, c'est qu'on n'aura plus d'entreprises qui sont motivées pour tirer le reste de la meute.
Il y a Euroluc qui me dit, la seule solution, c'est les retours à 40 heures. Voilà. C'est bon pour les entreprises et les salariés, il n'y a pas d'autre solution. DiMaggio me dit, la seule solution pour baisser les cotisations sociales, c'est la TVA sociale, on finira par y arriver.
Peut-être, je ne sais pas. Non, mais oui, il y a quand même
un petit mot d'impôt. Une émission sans impôt, ce n'est pas une émission, Mathieu.
Non, mais parce que ce que dit Robin est juste aussi, c'est qu'on a aligné les dispositifs entre les allègements Fillon, les 35 heures, le CICE, pacte de responsabilité, tout ça a été transformé. Aujourd'hui, il y a quand même plus de 70 milliards d'exos de cotises.
Oui, oui.
Et qui ont augmenté, je crois, de 14 milliards en deux ans.
On est à 90, Mathieu, d'exos de cotises.
Ouais, alors, oui, oui. Mais après, il y a. Ok, bon. On est autant enfin, bon.
Voilà. Oui, je crois.
Oui. Enfin, ça, d'ailleurs, si vous regardez, ça a beaucoup augmenté. C'est-à-dire qu'il y a aussi un poids budgétaire de tout ça. Et c'est vrai, quand on fait cette photographie, ce qui est hallucinant en France, c'est que. Alors, tout ça a été fait pour des bonnes raisons, en fait, initialement. C'est en disant. Alléger le coût du travail sur les bas salaires, parce que c'est là où il y a un problème de chômage.
Quand tu fais une niche fiscale, c'est toujours pour une bonne raison.
Et la prime d'activité, on la met pour éviter que le coût du travail augmente tout en rémunérant mieux les travailleurs les plus modestes, on va dire. Mais quand vous alignez tout ça, à la fin, vous arrivez à quelque chose qui est un peu monstrueux, quoi. Et aujourd'hui, quand vous faites la photographie de l'OCDE, on est quand même le pays de l'OCDE où le taux de cotisation patronale est le plus faible quasiment des pays de l'OCDE au niveau du salaire minimum. Oui.
Ah ben,
au niveau du
travail, du
salaire médian ou de deux fois le SMIC, on est le taux de cotisation patronale le plus élevé de l'OCDE. Donc on a quand même un grand écart qui pose question. C'est-à-dire qu'on est un des rares pays à avoir un tel écart entre le niveau de cotisation au niveau du salaire minimum et au niveau du salaire médian ou deux fois le SMIC.
Donc on se demande comment on en est arrivé.
Là où Alexandra a raison aussi, c'est qu'effectivement il faut réfléchir à une transformation. Mais cette transformation va faire quand même des mouvements. Et ça c'est toujours très difficile à gérer. C'est-à-dire que forcément à budget constant...
T'auras des perdants.
Il y aura des perdants. Et vous entendez souvent les perdants dans ces cas-là. Rarement les gagnants. Hein. Vous l'avez vu d'ailleurs dans le transfert cotisation CSG. Mmh. Les retraités ont été pas... Enfin, je vais peut-être revenir sur un vieux débat, mais... Oh bon, on a beaucoup entendu les retraités qui étaient mécontents pour, à juste titre, de perdre en pouvoir d'achat parce que là, vous êtes au CSG, mais vous n'avez pas entendu les salariés dire « Hourra, on a gagné en pouvoir d'achat parce que les cotisations ont plus baissé que la CSG. » Donc, il y a toujours cette gestion politique à faire. Et budgétairement, alors oui, sur la hausse d'impôts, se pose très clairement la question.
Ah ben alors, si, voilà.
Non, mais
osons les mots.
Non, mais le PLF va être le moment crucial. Hein. Le moment crucial, c'est comment effectivement tout ça va s'inscrire dans un cadre ou pas de procédure de déficit excessif. Hein. On est censé réduire à minima de 0,5 point de PIB notre déficit structurel par an, ce qui fait à peu près 14 milliards.
Vous l'avez dit vite, mais on le répète, 0,5 point de déficit structurel en moins tous les ans. Même
tous
si la
ans.
Définition du déficit
oui,
structurel...
Oui, après on peut aller un peu
mais enfin,
compliqué.
On a eu comme une vraie idée.
Voilà. Je pense que s'il n'y a pas de majorité qui se dessine, je pense que la Commission peut être un peu, j'allais dire... souple là-dessus, c'est-à-dire que effectivement, mais à terme se pose quand même cette question. Moi, j'ai l'impression qu'on est en 2012 en fait, avant l'élection quelque part, sortie de crise financière. Forcément, vous avez des déficits élevés et s'est posé la question de comment réduire les déficits. Alors avec les erreurs qui a été faite en 2012, mais à la base, Hollande a été élu sur un programme qui a été très différent de ce qu'il a mis en pratique entre 2012 et 2017. Par rapport,
ça a été le choc fiscal.
Il y a eu politique d'offre, alors peut-être pour des bonnes raisons, mais après, choc fiscal pour réduire les déficits. Sauf que là, se posera vraiment la question, avec une dette à 110 et des déficits à 5,5, une croissance qui a tonne et des taux d'intérêt élevés, effectivement, comment la trajectoire budgétaire de la France peut être soutenable, sachant que pour le coup, nos partenaires européens sont dans des situations qui sont meilleures, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour l'Europe, mais qui met la France quand même en difficulté par rapport
Mathieu,
aux autres.
Ce qui est évident, on l'a évoqué brièvement, mais si on fait une contre-réforme des retraites, là, la sanction des agences de notation, elle sera, c'est la contre-réforme structurelle. Quoi. C'est un pays qui fait une contre-réforme
structurelle. Sauf si c'est effectivement sous des modalités d'une négociation de financement. Il y avait eu, sous Édouard Philippe, juste avant le Covid, une conférence de financement qui était là pour dire voilà, vous avez un besoin de financement de 13, alors à l'époque c'était 14 ou 18 milliards, je ne sais plus, à l'horizon 2030, quelles sont les modalités possibles pour trouver. Aujourd'hui, il va falloir trouver des équipes politiques, c'est-à-dire qu'il y en a qui veulent augmenter un peu les cotisations, d'autres qui veulent que l'âge soit pas le qu'on ait un âge pivot, mais qu'on puisse partir à 60 ou 62 ans si on veut, mais alors à ce moment-là, il faut accepter des fortes décotes. Voilà, il faut mettre tout ça sur la table. Le problème, c'est que il n'y aura pas de formule magique, hein, de toute façon. Il n'y a pas de formule magique. Et donc, il y aura des perdants, de toute façon, ou en tout cas, il y aura des arbitrages à faire.
Je ne sais pas si on arrivera à la TVA sociale, on arrivera peut-être un jour à la CAPI aussi.
Mais... Ouais. Pour la réforme des retraites, il faut quand même redire qu'au-delà de l'aspect budgétaire, de l'équilibre du système, on a aussi fait la réforme des retraites parce qu'il fallait augmenter le taux d'emploi des seniors. Et donc, de toute façon...
Ça fonctionne.
Et ça fonctionne. Et c'est important macroéconomiquement parlant, parce que là, c'est vrai qu'on a tous ces débats budgétaires, mais le budget, ce n'est pas seulement quelque chose de statique, ça dépend aussi de la macroéconomie. Donc, avec des mêmes taux d'imposition et des mêmes niveaux de dépenses, si la macroéconomie se porte mieux, l'équation est beaucoup plus facile. Et donc, c'est pour ça que parmi toutes les mesures qui sont proposées, notamment par le nouveau Front Populaire, vraiment, s'il y en a une que je pense qu'il ne faudrait pas faire, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. Alors, c'est vrai qu'on peut arriver au même résultat avec des années de cotisation plutôt que l'âge légal, et en effet, ça ne touche pas les mêmes personnes. Donc, ça peut éventuellement s'envisager. Mais en revanche, le principe de dire qu'il faut qu'on travaille plus longtemps, ça me semble vraiment être quelque chose d'important, pas seulement pour des raisons budgétaires. C'est ça que je voulais dire.
Juste avant, on va dire un petit mot de BYD. Est-ce qu'il faut oser lever le tabou des impôts, croyez, Romain Maton?
Mais là, il est déjà levé.
C'est Jean-Marc Vittori qui a dit il y a des mois, on n'y coupera pas.
Non, mais personnellement, sur ce plateau aussi, je vous ai indiqué à de multiples reprises que le point de TVA vaut 9 milliards, le point de CSG vaut 11 milliards et que le mitage de la TVA en France, c'est 50 milliards. Donc, vous avez grosso modo des grandes options. Si on veut vraiment passer les 14 milliards de chaque année de baisse du déficit structurel, je vois mal comment on ne touchera pas à un moment à ces grandes masses. Peut-être l'IR, l'impôt sur le revenu aussi, mais qui est quand même déjà bien costaud. Donc, qui est très concentré sur quelques contribuables. Donc,
il y en a peu qui le payent, mais il y en a certains qui payent énormément à eux tout seuls.
Et qui ont une certaine quand même mobilité et liquidité. Donc, il y a eu beaucoup de débats sur la courbe de l'affaire cette dernière
semaine. C'est à cause de moi. C'est pas mal de poser cette question quand même. Je rappelais ce matin que quand on fait l'impôt sur les fenêtres en 1798, les gens ils muraient les fenêtres.
Je me permettais de tendre la perche.
Oui, tendez la perche.
Il y a beaucoup de débats.
Oui, je sais.
On sait sur le rendement marginal de l'impôt sur le revenu. Je serais très prudent là-dessus. Et après, les autres grosses masses, elles sont connues, elles sont ici. On peut aller rechercher un peu d'impôt sur les sociétés si on veut repasser la barre des 25, remonter à 30. Mais pareil, c'est des signaux qui sont extrêmement négatifs du point de vue.
Juppé l'avait fait en 95.
Il avait
fait une surtaxe IS.
Ah oui,
justement, c'est censé être temporaire.
C'est comme la surtaxe sur les revenus, la contribution spéciale sur les revenus qui traîne depuis 2011, donc elle commence à avoir
Sincèrement, comment vous voulez avoir un ajustement de cette ampleur où il faudra quasiment trouver 80 milliards d'euros sans prendre en compte les effets ce qu'on appelle multiplicateur budgétaire, sans intégrer le fait qu'il y a un besoin d'investissement dans la transition énergétique qui est massif. Donc je vous dis pas les sommes qu'il faut trouver, c'est un moment de dire il faudra aussi de nouvelles ressources fiscales, et ça c'est sans parler d'un programme dans lequel vous augmentez de 10 points
c'est à iso dépense. Et la grosse différence avec 2011-2012, parce que le choc fiscal c'est une partie Fillon, une partie Hollande quand même.
Le projet
de loi de finances 2012, il est passé par Nicolas Sarkozy et François Fillon, et il est extrêmement dur. Ils ont coupé beaucoup de dépenses sociales qui étaient les dépenses sociales qui restaient encore sous non-condition de ressources, notamment la branche famille qui a été complètement désinguée à ce moment-là. Aujourd'hui, si vous l'avez tapé dans la dépense sociale, pour le coup, là, il n'y a plus rien tout est sous condition de revenus. Donc, en fait, dès que vous touchez à de la dépense sociale, vous avez des effets, vous touchez aux personnes les plus modestes et vous avez des effets récessifs qui sont beaucoup plus forts. Donc, aujourd'hui, l'équation budgétaire, elle est vraiment très, très complexe.
On ose les impôts, vous croyez, Alexandra Roulet?
Oui, je suis un peu silencieuse depuis tout à l'heure.
Encore une fois, il va falloir trouver le bon.
Oui.
Ou les bons.
C'est vrai que si on réfléchit, en fait, c'est la vraie ligne de partage. Ça va être la vraie ligne de partage. C'est d'ailleurs une ligne de partage, y compris au sein du bloc présidentiel, entre un peu l'aile gauche. C'est la ligne fiscale. Le président a toujours été très ferme sur le fait de ne pas augmenter les impôts. Il a vraiment tenu à tenir cette ligne. Moi-même, j'étais assez alignée avec cette idée qu'il y a vraiment une vertu à être, à donner de la lisibilité, à avoir de la stabilité. Donc, le fait d'être très ferme sur cette ligne avait des vertus. Cela étant, ma réflexion évolue également au vu des discussions, des résultats, etc. Et je pense qu'en effet, il va peut-être falloir venir sur la question des impôts. Je pense que la question des très hautes fortunes sur laquelle le président travaille au niveau du G20. enfin dans le cadre du G20 sur l'imposition au niveau mondial des ultra riches.
Et ce qu'il y a des choses 0,0002
voilà.
là.
Voilà. Alors ça c'est peut-être plus symbolique qu'autre chose, ça va pas régler le problème de finances publiques.
250 milliards de recettes mondiales par an.
Je sais, oui, ça va pas régler oui, mais pour la France quoi, 5 oui, voilà, oui, quelque chose comme ça, 5-10. Mais même si c'est pas un sujet finances publiques, c'est peut-être un sujet malgré tout important.
Ouais. Les symboles comptent quoi.
Les symboles comptent.
Benjamin Coria.
Et là, il y a pas les effets, vous voyez sur le débat courbe de l'affaire, effet des incitatifs, on a du mal à ce niveau-là à voir vraiment les effets totalement désincitatifs.
Benjamin Coria, qui est un économiste atterré qui vient souvent ici, m'avait dit un jour sur le plateau, oui, j'admets que sur un sujet purement finances publiques, recettes, recréer l'ISF n'a aucun sens, disait-il, mais les symboles comptent, il disait. Il y a Jean-Sébastien qui m'écrit, voilà, je vous entends dire que la politique de l'offre fonctionne, pourtant la croissance est atone, comment est-ce possible? Quand on prend la période, on a une croissance correspondant à peu près à la croissance potentielle. Hein.
Comme la moyenne de la zone euro.
Ouais, on n'est pas
si atone. Moi, ce que je critiquerais sur la politique de l'offre, parce que je vais quand même mettre une critique, je pense qu'on avait un vrai problème.
C'est la productivité.
Il y a la productivité. On a une baisse de productivité et le déficit commercial. C'est-à-dire que pour le coup, l'épargne marché, on peut augmenter. Moi, je pense qu'elle a été trop basée sur la compétitivité coût. Voilà. Et que peut-être, on l'avait fait cibler, c'est pas facile. Hein. C'est des choses qui sont un peu plus sur l'innovation, la montée en gamme, sur un certain nombre de choses qui sont hors coût, qui sont pas faciles à mettre en place. Ouais, c'est-à-dire, il y a quand même un montant qui est extrêmement fort si vous prenez depuis 10 ans, entre les baisses de cotisation de coût du travail, la baisse d'impôt sur la production, les baisses d'IS. Tout ça cumulé fait quand même des montants extrêmement significatifs. La question, c'est est-ce que justement ça a été bien ciblé ou pas? C'est pas, il faut pas être critique. D'ailleurs, moi, ma critique, c'est que dans le nouveau Front populaire, il y a très peu d'éléments sur une nouvelle politique d'offre, par exemple, avec la transition énergétique, la réindustrialisation, surtout face à l'IRA. Les États-Unis, face à la Chine, même l'Allemagne est en train de mettre en place un certain nombre de choses. Il faut répondre à ces nouveaux enjeux sur les nouvelles politiques de l'offre.
Mais sur la compétitivité.
Mais qui ne passe pas que par la compétitivité.
Ouais, mais sur la compétitivité hors coût, hein, je rappelle souvent ce chiffre-là, hein, mais la productivité du capital en France est négative. Donc ça veut dire que les entreprises françaises.
Mais c'est pas que ça.
Non, les entreprises françaises ont investi deux fois plus que leurs homologues allemands, notamment dans du logiciel. Ça ne leur permet pas d'être plus productives. Et donc là, on se pose une question sur comment on fait de la politique de compétitivité hors coût. Oui. Il y a un problème de formation de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que si vous donnez des beaux outils, mais que votre main-d'œuvre n'est pas capable de s'en saisir, vous pouvez investir à perte pendant des années. C'est ce que fait la France aujourd'hui depuis maintenant 20 ans.
Bon,
enfin, il y a beaucoup de choses à dire.
J'ai 1 minute 10. Non, on va pas ouvrir le sujet de la voiture électrique en 1 minute 10. C'est pas possible. Oui, c'était BYD là, qui va s'installer en Turquie. Ça, ils vont pouvoir nous vendre des voitures chinoises fabriquées en Europe et toucher les subsides du bonus écolo. Parce que ça, ce qui est hyper impressionnant, c'est que la première victime de la réécriture du bonus écolo français, c'est Dacia Spring.
Non mais ça c'est intéressant parce que dans le débat public actuel, la question de justement de cette transition et de la réindustrialisation, elle est passée quand même très très loin dans les débats économiques. On est beaucoup sur le pouvoir d'achat, la redistribution, alors qu'il y a encore quelques mois, on parlait que du risque de dépendance sur certaines matières premières, certains composants industriels, sur la question stratégique vis-à-vis des pays qui ne sont pas tous amis.
Très peu de mesures protectionnistes dans le programme de la NFP.
Et sans être protectionniste, par exemple.
La gauche a été protectionniste pendant très longtemps et là, on ne le sent plus du tout.
Sur cette question de réindustrialisation et de créer des nouvelles filières. Quoi.
Merci à vous, merci Alexandra Broulé d'avoir été là, Mathieu Plane, Robin Rivaton. J'ai eu plein de réactions, je n'ai pas pu tout lire. Hein. On se retrouve demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.
Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux.
Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.